et Cover Dub, une émission réalisée par Solénoïde.
Pour poursuivre le voyage sonore, rendez-vous sur le site web de l'émission
solénopole.org.
Oh, c'est clair!
Quoi? C'est fini?
Ben oui, t'as aimé?
Je sais pas, je me suis endormi dès le début.
Eh ben, t'as pas raté grand-chose.
Vous avez 5 secondes pour arrêter la bande. 5...
زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد
ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد أصحاب الهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غني وأنا إيد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد
Ceci est une émission de radio.
Nous interrompons notre émission pour un message urgent.
Je le répète, ceci est une émission de radio.
99.1.
I feel a vibration.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce que
je disais
déjà?
I feel it.
Tout de suite monsieur.
Qué triste me pongo, es que estoy tan enamorado de la negrita Tomasa, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo.
Et abonnez-vous pour être au courant de nos dernières publications.
Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, les 4h en temps universel, 8h, Erevan. Le début d'une demi-heure d'actualité internationale avec vous, Marion Kazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Et à la une, l'Occident ou la Russie, les Arméniens choisissent aujourd'hui.
Avec des élections législatives, le Premier ministre sortant Nikol Pachinian s'est rapproché de l'Europe. Il est donné favori aux grandes dames de la Russie qui suit de près le scrutin dans ce pays encore très dépendant de Moscou. Week-end électoral aussi au Kosovo qui tente de sortir d'un blocage politique. Le second tour de la présidentielle au Pérou. Dans l'actualité français. Également le Mali, la junte crée des zones d'intérêt militaire interdites aux civils. Elles sont susceptibles d'accueillir des djihadistes. Et puis les lycéens chinois transpirent à grosses gouttes sur leurs copies. C'est le début du traditionnel Gaokao, le concours d'entrée à l'université. Une bonne note assure des études prestigieuses. Ces élèves portent souvent les espoirs de toute une famille, on le verra. Les bureaux de vote ouvrent ce matin en Arménie pour des législatives cruciales. Le Premier ministre sortant Nicole Pachignan espère être reconduit et donc que les électeurs valideront sa politique d'ouverture à l'Occident. Il est en tout cas donné favori face au pro-russe Samuel Karapetian. C'est donc tout l'enjeu du scrutin, prendre ses distances du grand voisin russe ou rester dans son giron. Daniel Valo est notre envoyé spécial à Yerevan.
La Russie est devenue un pays fasciste et nous devons absolument nous en séparer. Cette électrice de Yerevan n'hésitera pas un instant ce dimanche au moment de voter. Elle choisira Nicole Pachignan parce que, nous dit-elle, c'est le seul à vouloir détacher l'Arménie de la Russie.
Je connais bien la culture russe. Tchekhov, Tolstoï, Dostoïevski. Eh bien, tous ces gens, s'ils vivaient aujourd'hui, ils quitteraient la Russie qui est devenue une dictature. C'est pour ça que nous sommes heureux de voir l'Union européenne à nos côtés.
Pas d'accord, répond cet électeur franco-arménien qui dénonce, lui, le virage pro-occidental de Nicole Pachignan et de son parti, déjà coupable à ses yeux d'avoir perdu le Haut-Karabakh en 2023.
On ne peut jamais faire confiance à ces gens-là qui ont cédé nos terres aux Azéris. Nous rejetons totalement sa politique extérieure qui déstabilise l'économie, qui déstabilise nos relations extérieures avec nos amis, avec nos pays voisins.
En réalité, de nombreux électeurs sont dans l'expectative. Ils souhaitent s'affranchir, certes, de la tutelle russe, mais sans aller trop loin ni trop vite, par crainte des représailles.
Les pays qui ont fait partie de l'URSS ont des liens très forts et ce n'est pas possible de défaire ces liens trop brutalement. Pachignan devrait être plus prudent et ne pas se fâcher avec Moscou.
Une crainte nourrie ces dernières semaines par les mesures de rétorsion commerciale prises par la Russie. Le message est clairement destiné à influer sur le choix des électeurs. Daniel Valo, Yerevan RFI.
Et à la veille du scrutin, 6 candidats de l'opposition pro-russe ont été arrêtés. C'est l'agence de presse d'État qui l'a annoncé hier après-midi, mais n'en précise pas les raisons. Le ministère de l'Intérieur a déclaré en début de semaine avoir recensé des dizaines de crimes préélectoraux et avait déjà procédé à 44 interpellations. Pour ces législatives, environ 2,5 millions d'Arméniens sont appelés aux urnes. On sera en direct de Yerevan dans 2 heures avec notre envoyé spécial sur place. Autre élection en Europe, cette fois dans les Balkans. Législative également au Kosovo, le plus jeune pays du continent. C'est la 3e fois en 1 an et demi. Le pays traverse une crise politique. Le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord pour l'élection d'un président. C'est un poste honorifique dans le pays. En tout cas, le Premier ministre, le social-démocrate Albin Kurti, est favori du scrutin, mais il lui faudrait une majorité confortable pour sortir de ce blocage. Julien Chavanne.
Retour à la case départ pour les électeurs kosovars. Même si le parti au pouvoir devrait l'emporter, l'inconnu, c'est l'emploi. L'ampleur de cette victoire. Albin Kurti fait le pari qu'il pourrait remporter plus de 60% des voix. Scénario idéal qui lui donnerait les mains libres pour la présidence du Parlement et celle de l'État. Ces deux postes sont au cœur de la crise politique depuis 18 mois. Les partis n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Et plus ça dure, plus les chances de rejoindre l'Union européenne s'éloignent. Bruxelles attend toujours que le pays mette en œuvre les réformes demandées. La population surtout s'impatiente, alors que le climat politique reste tendu. L'opposition a accusé le Premier ministre de tentative d'achat de vote. Albin Kurti a offert plus de 100 millions d'euros de primes à la population face à la hausse des prix du carburant et 2 millions d'euros de subventions pour faciliter le retour par avion de la diaspora le jour du vote.
Et pour terminer ce chapitre élection, le Pérou, lui, organise le second tour de la présidentielle aujourd'hui. La candidate de droite, Keiko Fujimori, fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori, est candidate pour la 4e fois. Les sondages la donnent au coude à coude avec Roberto Sanchez à gauche. Ce dernier, d'ailleurs, pourrait être jugé pour fausse déclaration. Juste avant le scrutin, un juge péruvien a renvoyé en procès le candidat soupçonné de violation des règles de financement de campagne. RFI 4h05, à Bamako, au Mali, la junte crée des zones d'intérêt militaire, annonce dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et les djihadistes. Les espaces géographiques concernés englobent une quarantaine de forêts maliennes sus- susceptibles d'abriter les djihadistes. Cet arrêté ministériel, Serge Daniel, rend donc ces zones interdites aux civils.
Toutes les personnes se retrouvant dans ces zones des terrains militaires ou nouvellement créées seront traitées comme une cible, précise un document officiel signé par 6 ministres maliens, dont celui délégué à la défense. Selon une source officielle malienne, dans le cadre des opérations sur le terrain, dans les nouvelles zones d'intérêt militaire, un nouveau dispositif de défense sera bientôt installé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout le Mali, ces endroits devenus en fait zones de guerre sont essentiellement des forêts susceptibles d'abriter des terroristes. La forêt du Ouagadou, située côté malien non loin de la frontière avec la Mauritanie, figure parmi ces lieux désormais interdits aux civils. Les djihadistes sont présents dans cette forêt qui s'étend sur plus de 80 km de longueur et 40 km de largeur. Bamako accuse souvent les djihadistes de venir de la Mauritanie voisine à pour attaquer des localités maliennes, ce que refutent catégoriquement les autorités de Nouakchott. Le Mali pourra en tout cas difficilement contrôler cette forêt qu'il partage avec la Mauritanie si les deux pays ne coordonnent pas leurs interventions militaires.
Serge Daniel, l'armée israélienne continue ses frappes au Liban. 2 femmes ont été tuées dans le sud hier soir, 22 autres personnes ont été blessées. Plus tôt dans la journée, 3 soldats libanais sont morts là aussi dans une frappe israélienne. Le président Joseph Aoun a dénoncé une violation flagrante de la souveraineté libanaise et du droit international alors qu'un nouveau cessez-le-feu a été signé mercredi à Washington. L'armée israélienne, elle, déplore 2 nouveaux morts dans ses rangs. L'organisation Soumoud organise à l'origine de convois humanitaires vers Gaza, notamment des différentes flottilles, dénonce la détention de plusieurs de ses militants en Libye. Une caravane terrestre a été bloquée par les forces du maréchal Haftar dans l'Est. 11 membres du convoi ont été arrêtés, détenus au secret depuis 2 semaines dans la région de Benghazi. Il y avait eu déjà des images de militants capturés par Israël en mer et ayant subi des violences pendant leur détention. Cette fois donc, ce sont les autorités de l'Est libyen qui sont pointées du doigt, mais pour Soumoud, à travers elles, c'est surtout le signe d'une politique de plus en plus répressive des expressions de soutien à Gaza, Guilhem Delteille.
La caravane est partie le 8 mai de Sétif en Algérie et s'est agrandie au fur et à mesure de son trajet. 16 jours plus tard, elle comptait près de 1800 personnes lorsqu'elle a été arrêtée aux portes de l'Est libyen, contrôlée par le maréchal Haftar. Mohamed Ghazalikou, c'est l'un des ambassadeurs de l'organisation Soumoud en France.
La crise débute le 24 mai lorsqu'une délégation de négociation de 10 membres s'est approchée de Sirte de bonne foi pour négocier avec les autorités libyennes. C'était surtout le Croissant Rouge libyen qui était l'interlocuteur. Au lieu d'être reçus pour un dialogue, ils ont été forcés dans des fourgonnettes banalisées et ont disparu.
De premières réunions avaient pourtant eu lieu, un dialogue était engagé, mais soudainement les autorités libyennes ont changé d'attitude, dit Mohamed Ghazalikous, tant les forces de Khalifa Haftar qui ont arrêté une dizaine de personnes que le gouvernement de Tripoli qui a expulsé les autres membres de la caravane.
Après leur kidnapping, et ceux qui étaient là, ils étaient dans un endroit sécurisé à l'ouest, ils ont été attaqués dans leur campement. Et on leur a demandé de partir.
La flottille venait alors d'être interceptée par les forces israéliennes et les images des sévices subis par les militants ont suscité une indignation mondiale, des critiques adressées à Israël. Les pressions sur les autorités des pays de transit se seraient alors accentuées. Soumoud y voit une marque de plus du soutien des États-Unis à Israël.
Nouvelle tension autour de Taïwan. Les gardes-côtes taïwanais ont déployé ce matin des navires en réponse à une opération militaire chinoise à l'est de l'île. Ce déploiement répondait lui-même à de récentes discussions entre le Japon et les Philippines sur leurs frontières maritimes, notamment autour des eaux de Taïwan. Des discussions considérées comme illégales par Pékin. Pékin estime que l'île de Taïwan fait partie de son territoire. La Chine, où des millions de lycéens planchent en ce moment pour leur avenir avec le Gaokao, ce concours national d'entrée à l'université. Des épreuves décisives qui marquent la fin d'une préparation intensive, parfois source d'angoisse. Cléa Broder, c'est une pression immense pèse en effet sur les élèves qui portent les espoirs de toute une famille.
Chaque année, le Gaokao transforme la Chine en immense salle d'examen. Devant les centres, des policiers encadrent les arrivées, des bénévoles distribuent de l'eau et certaines villes limitent même le trafic pour réduire le bruit. Car pour des millions de familles, cet examen représente bien plus qu'un simple concours. Après des années de révision intensive, les élèves jouent une partie de leur avenir en quelques jours seulement. Une bonne note peut ouvrir les portes des universités les plus prestigieuses du pays et offrir offrir de meilleures perspectives professionnelles. Le Gao Cao reste aussi l'un des principaux moteurs de mobilité sociale. Pour de nombreux jeunes issus de familles modestes ou de zones rurales, il constitue encore la meilleure chance d'accéder à une carrière mieux rémunérée. Cette pression est d'autant plus forte que le marché de l'emploi s'est dégradé ces dernières années. Même les diplômés des universités peinent parfois à trouver un poste à la hauteur de leurs attentes. Malgré cela, le Gao Cao conserve un statut presque sacré en Chine, celui d'un examen capable à lui seul de changer le destin d'une famille entière. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
En tennis, la Russe Mira Andreeva remporte son premier tournoi du Grand Chelem. À 19 ans, la joueuse a battu en finale la révélation du tournoi de Roland-Garros, la Polonaise Maja Chwalińska, issue des qualifications. Une première victoire majeure donc pour la Russe qui ne compte pas s'arrêter là.
J'ai du mal à réaliser que je fais une conférence de presse avec un trophée du Grand Chelem à côté de moi. C'était l'un des plus grands rêves de ma vie et je suis vraiment très heureuse d'avoir réussi à donner le meilleur de moi-même et à remporter ce tournoi. Je dirais que la sensation réelle est évidemment bien plus forte que dans mes rêves. Oui, c'est incroyable de regarder ce trophée et de me rendre compte que c'est vrai, que tout ça est réel et que je peux désormais me considérer comme une championne en Grand Chelem. Mais j'ai l'impression que cette sensation est très rapidement addictive. Alors j'ai déjà très envie de tout faire pour revivre ça une deuxième fois.
Mira Andreeva, vainqueur du tournoi de Roland-Garros, la finale homme, c'est tout à l'heure. Elle marquera la fin d'une quinzaine pleine de surprises. L'Allemand Alexander Zverev tentera de remporter son premier titre du Grand Chelem. Il sera face à l'Allemand, à l'Italien, Flavio Cobolli. RFI, 6h12 à Paris. On reste ensemble encore pour un tour du monde de l'actualité. On ira d'abord en Syrie, dans la ville d'Alep, qui se reconstruit doucement après la guerre et un violent séisme. Le cœur du réacteur, ce sont les souks, les faire renaître. C'est faire renaître aussi l'économie, la vie locale sur place. Au Soudan, en Ukraine, au Moyen-Orient, les différentes guerres qui secouent la planète le montrent. Maîtriser les drones est indispensable. De nombreuses armées travaillent sur le développement de ces drones, mais aussi sur des moyens pour s'en défendre. Illustration en France, dans Ligne de défense. La chronique Vivre ailleurs ce matin donne la parole à une voix de RFI, Sayouba Traoré. Il animait l'émission Le Coq Chante jusqu'en 2022. Désormais à la retraite, le journaliste burkinabé vient de publier son 6e livre. À suivre également un extrait de l'atelier des médias consacré aujourd'hui à une radio camerounaise d'utilité publique dans le nord du pays, confrontée à des problèmes sécuritaires. Et puis les plantes se parlent et nous parlent, c'est le sujet de notre chronique biodiversité que l'on écoutera juste avant le retour de l'actualité africaine. On part donc à Alep, la capitale économique de la Syrie. Une ville durement frappée par la guerre entre 2012 et 2016, mais aussi par un séisme en 2023. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, 60% des souks sont très endommagés ou bien détruits. Alors aujourd'hui, les habitants tentent de reconstruire leur ville meurtrie. Les commerçants reviennent progressivement. Reportage sur place de Sophie Guignon avec Dana Albouz.
Les souks pluricentenaires d'Alep, carrefour des routes de la soie, reprennent vie timidement. Nour Habak, le directeur de la citadelle, nous fait visiter ces 14 kilomètres de ruelles labyrinthiques.
Historiquement, chaque souk était dédié à un métier spécifique. Le souk du cuivre, celui des parfumeurs, etc.
Les souks recèlent de nombreux trésors cachés. Dans la cour de la mosquée Halawiyeh, qui attend d'être restaurée, derrière un mur de béton, un joyau du 12e siècle. Nour Habak nous montre ce qui s'y cache sur son téléphone.
Voilà ce qui se trouve derrière. C'est une niche de prière en marqueterie de bois. C'est l'un des plus beaux mérabes du monde arabo-islamique. Ce mérabe a été protégé au début de la révolution grâce à un double mur de blocs de béton au cas où le bâtiment serait touché par des obus. Comme on peut le voir ici, on distingue les traces des éclats. J'ai des sentiments partagés. Je suis soulagé que ce mérabe soit en sécurité, même si je suis triste de ne pas le voir.
Mais ce mihrab est une exception. 60% des souks ont été endommagés ou détruits, d'après l'ONU. Les destructions subies sont vertigineuses. Nul ne sait combien de temps prendra la reconstruction. Raif McKenzie, architecte, dirige la restauration du souk depuis 2018.
Bon courage. Toute cette partie était à terre. Les toits, les boutiques. C'était un musée à ciel ouvert. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Quand ce sera terminé, les propriétaires du marché pourront retourner dans leurs boutiques.
Un chantier qui doit être mené dans le respect de la tradition à l'épine. Samer Saïd, tailleur de pierre.
Mon père m'a appris mon métier. On transmet ce savoir-faire d'une génération à l'autre.
Quelques ruelles ont déjà été rénovées. Mais les propriétaires de commerces, comme Mahmoud Sopri, vendeur de kéfier, attendent leur tour avec impatience.
Si cette artère rouvre, c'est comme si le sang recommençait à circuler dans le marché. Et les gens reviendront, car beaucoup de clients viennent, voient les destructions, puis ne continuent plus leur chemin vers le bas du souk. Toute ma vie, je suis resté dans cette boutique. Je ne l'ai jamais quittée. Tout meurt, mais le souk revivra grâce à la population, grâce aux gens qui y vivent.
Reconstruire Alep et plus largement la Syrie est un chantier immense qui, d'après la Banque mondiale, coûtera plus de 200 milliards d'euros. Sophie Guignon, de retour d'Alep, RFI.
Un reportage international à réécouter sur notre site rfi.fr. Hier s'achevait le Forum économique de Saint-Pétersbourg. L'événement a été marqué par une pluie de drones ukrainiens. La Russie en a intercepté plusieurs centaines hier. Le jour de l'ouverture, mercredi, ces appareils ont fait des dégâts sur un terminal pétrolier et sur une base militaire de la ville. Kiev a augmenté ses capacités en termes d'attaque de drones avec la guerre ces dernières années. D'autres armées ont compris aussi que les enjeux de défense résidaient dans la maîtrise de ces drones. En France, l'armée de l'air a expérimenté cette semaine de premiers tirs contre des drones depuis un hélicoptère. Ligne de défense avec Franck Alexandre.
La guerre au Moyen-Orient a servi de bascule. Dans l'urgence, des hélicoptères français ont été engagés dans la défense des Émirats Arabes Unis, des hélicoptères d'attaque Tigre de l'armée de terre, mais aussi des hélicoptères légers Fennec de l'armée de l'air ont fait mouche à tous les coups contre les drones Shahed iraniens. Alors, puisque les hélicoptères sont efficaces, tous les modèles sont désormais reconvertis à la lutte anti-drones. Cette semaine, c'était le tour des Caracal. Ces gros hélicos, habituellement dédiés à la logistique, ont été lestés de mitrailleuses de sabord et se sont révélés parfaitement adaptés à cette lutte. Ce fut même plutôt facile, juge le lieutenant-colonel Laurent, en charge des nouvelles capacités pour les hélicoptères à l'état-major de l'armée de l'air.
L'enjeu pour les hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace en particulier a été d'adapter ces capacités de tir qui étaient soit tournées vers de l'appui-feu air-sol en opération extérieure, soit tourné vers des menaces qui étaient un petit peu différentes, mais malgré tout assez similaires dans le cadre de la défense aérienne. Et l'enjeu a bien été de pouvoir adapter relativement facilement ces capacités-là face à du drone.
Pour que les hélicoptères servent de bouclier, il a fallu néanmoins moderniser une partie de la flotte en l'équipant d'une liaison 16, le système d'identification qui équipe tous les avions de combat.
On a vu au Moyen-Orient qu'il y avait énormément d'aéronefs qui étaient en vol dans le même espace aérien, que cet environnement, il voit des aéronefs alliés mais également des menaces qu'il faut détruire éventuellement. Et pour ça, l'enjeu, il est bien d'éviter à tout prix le tir fratricide. Pour ça, on a fait un très gros effort sur la capacité de liaison 16 pour lesquelles nos hélicoptères n'étaient pas équipés jusqu'ici. En particulier dans le cadre de l'hélicoptère Fennec que nous avons engagé, en 48 heures, on a été en mesure d'équiper ces hélicoptères de cette nouvelle capacité pour pouvoir les intégrer au mieux dans ce dispositif.
La lutte anti-drone, c'est une défense multicouche, souligne le lieutenant-colonel Laurent, de haut en bas, chacun à sa place.
Alors, qui fait quoi ? Ça part déjà au sol d'un dispositif de détection, et ensuite, c'est tout un dispositif qui va partir de l'avion de chasse qui, lui, vole haut, loin, jusqu'à l'hélicoptère à proximité des côtes, qui, lui, aura des capacités d'identification et une capacité à se rapprocher. Et l'enjeu, il n'est pas d'avoir un hélicoptère qui soit exclusivement capable de traiter cette menace-là, mais bien de pouvoir utiliser l'ensemble des capacités qu'on a à notre disposition pour pouvoir les traiter.
Véritable alternative aux très coûteux missiles solaires, les hélicoptères prouvent qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est aussi l'une des révélations de la révolution drone.
Ligne de défense, chronique signée Franck Alexandre. Sa voix vous est sûrement familière. Sayouba Traoré a produit et présenté l'émission Le Coq Chante sur RFI jusqu'en 2022. Le journaliste burkinabé est aussi auteur. Il vient de publier un nouveau roman, Petit Modèle, publié aux éditions Nombre 7. Il raconte dedans le quotidien d'une femme réduite à l'esclavage domestique. Sayouba Traoré revient sur son travail d'écriture, mais aussi sur son parcours d'expatriation avec Corinne Mandjou pour la chronique Vivre ailleurs.
En Afrique, vous avez des femmes qui luttent pour l'émancipation de la femme. Et ce sont des modèles qu'on montre à la télévision. Mais le personnel de maison, cette femme les opprime littéralement. Les gens ont décidé de ne pas les voir. C'est dans le non-dit. D'ailleurs, le premier chapitre du livre